Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Émilie, quel est votre choix de l'actu du jour?
Je vais vous parler des algorithmes et comment ils peuvent être dangereux pour les adolescents.
Mohamed.
Je vous explique ce soir pourquoi et comment les hôpitaux de Guadeloupe ont été sabotés.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Eh bien, je vous parlerai de Tintin en Chine. Ça n'est pas un nouvel album, mais l'exposition qui a lieu en ce moment à Shanghai.
Patrick.
Une très grande nouvelle médicale, et c'est pas le Covid.
Mathieu dans le 5 sur 5 ce soir.
Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations. Moi, je vous donne le résultat avant 20h.
Ah bon?
Oui, on est fort.
Vous êtes très fort. Madame Irma, ce soir sur le plateau de C'est à vous. Ça intéressera forcément Philippe Gueluc, qui expose des chats géants partout en France. Peut-être aussi Jeff Panaclock, qui revient sur scène avec Jean-Marc, sa marionnette insolente. Ils sont tous les deux nos invités. Ils goûtent ce soir les ravioles de potiron aux chèvres qui sont préparées en ce moment même par notre chef du jour. Il s'appelle Jérémy Boré et il nous vient des chèvres sans canaille à Megève.
Exactement.
Vous en canaillez à quel point à Megève?
On s'en canaille beaucoup à Megève, effectivement. Les chèvres sans canaille, c'est l'association de deux chefs privés. Nous nous déplaçons chez des particuliers ou pour des événements spéciaux, mariage, cocktail. On sera certainement à l'événement Tokissime du 22 au 25 octobre à Megève. Et ce soir, je vais vous proposer des ravioles de potimarron. C'est la saison, avec du chèvre frais de la coopérative de Megève. Et il y aura un bouillon de butternut, quelques noix et des crackers aux noix également. Et justement, j'ai ramené un petit peu d'huile de sapin pour amener, pour rappeler les belles montagnes de Megève.
Merci beaucoup, Jérémy. À tout à l'heure. Mais avant toute chose, l'édito de Patrick Cohen.
Je m'y fais pas.
Vous nous annoncez donc, Patrick, la meilleure nouvelle médicale de l'année.
Et peut-être de la décennie, il ne s'agit pas du Covid donc, mais de la maladie la plus mortelle de toute l'histoire de l'humanité, le paludisme, en anglais la malaria, la fièvre des marais, fléau connu depuis les origines de l'homme qui faisait encore 3 millions de morts par an il y a une trentaine d'années, environ 400 000 aujourd'hui, dont deux tiers d'enfants, un mort toutes les deux minutes, ce qui fait que l'an dernier, sur le continent africain, le paludisme a tué davantage que le Covid.
Et quelle est la bonne nouvelle?
Un vaccin. Enfin, après 70 ans de recherche en tout genre, ce qui était une chimère pour des générations d'infectiologues vient de devenir réalité parce que le paludisme n'est pas un virus, mais un parasite Plasmodium falciparum transmis par des moustiques. On a longtemps pensé qu'un vaccin serait impossible. Voyez comment le médecin de France 2, l'ancien médecin de France 2, Jean-Daniel Flézaquier, en parlait en 2005.
Dans cette boîte, il y a de quoi tuer des centaines de personnes. Ces moustiques véhiculent en effet le parasite à l'origine du paludisme. Le paludisme, c'est une fièvre à plus de 40 degrés, des convulsions, une déshydratation et souvent rien pour traiter la crise parce que tout cela survient en Afrique où on manque déjà de tout. Quand on pense maladie, on imagine un vaccin. Pour le paludisme, il faudra encore 10 ans au moins pour qu'il voie le jour.
Bon, il aura donc fallu 15 ans, après des décennies d'espoir déçu, de sous-investissement des labos pharmaceutiques, parce que maladie pas rentable, des médicaments devenus inefficaces parce que le parasite du palu développe à chaque fois des résistances à ces traitements. C'est le cas de la vieille chloroquine. Oui, la chloroquine a eu son utilité dans un autre temps, mais longtemps, le principal message de santé publique en Afrique, c'était d'éviter les piqûres en appelant les populations à dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Alors hier soir, en validant ce premier vaccin antipaludique, le directeur de l'OMS avait la solennité et l'émotion du médecin africain qui sait ce que représente une telle avancée.
I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day. An historic day. This vaccine is a gift to the world.
Un cadeau pour le monde entier, donc une première historique, un premier vaccin contre une maladie parasitaire. C'est un vaccin développé depuis près de 20 ans par le laboratoire britannique GlaxoSmithKline. Il est testé depuis 3 ans sur des enfants de plusieurs pays d'Afrique centrale. C'est loin d'être un produit parfait, mais il y en aura d'autres. Celui-là, pour l'instant, prévient 3 cas de paludisme sur 10, mais c'est déjà considérable. Et l'OMS recommande son déploiement massif en Afrique subsaharienne et espère réduire la mortalité de 90% d'ici à 2030.
Bonsoir François Crémieux.
Bonsoir.
Vous êtes depuis le 3 juin dernier le nouveau directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, APHM à ce titre. Notamment, vous siégez au conseil d'administration de l'IHU méditerranéen de Didier Raoult. Ce premier vaccin antipaludique chez les enfants, c'est l'espoir d'éradiquer un jour cette maladie connue depuis l'Antiquité, mais aussi la preuve que la science, la recherche médicale ont des ressources qui surprennent encore et toujours.
Je ne sais pas si elles surprennent, en tout cas c'est une nouvelle incroyable. Pour avoir, dans un passé encore récent, voyagé à la fois en Afrique et travaillé en Haïti, c'est une nouvelle inouïe. Et on voit effectivement dans l'émotion du directeur de l'OMS une nouvelle inouïe pour d'abord une très grande part de l'humanité. On oublie souvent que les maladies qui nous concernent ici en France et dans les pays développés ne sont pas forcément les maladies de tous. Et qu'à l'inverse, les maladies qui concernent le plus grand nombre, ne sont pas forcément celles qui nous touchent de plus près. Donc c'est une nouvelle inouïe et probablement effectivement à l'échelle plus que de la décennie, mais peut-être bien du siècle.
C'est aussi une réponse à tous ceux qui doutent en général de l'importance, de l'intérêt, de l'efficacité des vaccins, une méfiance anti-vaccin qui est particulièrement présente dans le Sud. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le taux de vaccination dans les Bouches-du-Rhône est l'un des plus faibles de la métropole ?
Probablement. D'une part, il y a toujours eu un gradient nord-sud que j'aurais du mal à vous expliquer sur le fait que, qui conduit à ce que les populations plutôt du nord de la France ont tendance à se vacciner plus et mieux que les populations du sud.
Oui, ça dépend. Ce n'est pas que le cas pour le Covid.
Absolument. Et c'est vrai de manière générale, notamment autour du vaccin contre la grippe, qui est un des marqueurs qu'on a tous les ans sur le nombre de personnes qui acceptent de se faire vacciner. Et effectivement, dans les Bouches-du-Rhône en particulier, il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup batailler, notamment cet été, et en particulier auprès des professionnels de santé et ceux de la PHM. Autant que les autres, pour expliquer, faire de la pédagogie et convaincre.
Une défiance dont vous avez été directement la cible. Le 4 septembre dernier, lors d'une manifestation, des anti-vax ont vandalisé un immeuble pensant que c'était votre domicile marseillais. Il s'agissait en fait de l'adresse d'un homonyme. Vous avez déposé plainte. Cette action, elle vous a profondément choqué. Vous recevez encore des menaces ?
Alors d'abord, non, je n'ai pas reçu de menace depuis. Elle m'a profondément choqué. Je crois surtout que c'est des événements qu'il faut qu'on prenne extrêmement au sérieux. Non pas parce que cet immeuble-là ou moi-même avons été attaqués ou l'immeuble vandalisé, mais c'est finalement l'expression d'une situation et d'un état du débat dans notre société qui peut aller jusqu'à prendre ces formes-là. Effectivement, les injures et les mots qui sont utilisés sont des mots qui, par ailleurs, sont signifiants de tout l'imaginaire qui tourne autour de cette question de la défiance et probablement de ce qu'on appelle, de manière un peu simple, mais finalement assez illustrative, le complotisme. Et effectivement, collabo ou autre sont des mots qu'il faut, je pense, toujours prendre très au sérieux.
Vous n'avez plus de menaces, mais vous n'avez pas pour autant reçu beaucoup de soutien localement.
Alors, j'ai reçu beaucoup de soutien
localement,
France entière, de la part de beaucoup de personnes qui ont été extrêmement choquées, de manière générale, des menaces qu'il peut y avoir à mon égard, mais surtout à l'égard de l'ensemble des soignants. Il y a eu beaucoup de soignants qui, au cours des dernières semaines, parmi tous ceux qui s'impliquaient, notamment dans les centres de vaccination, qui ont été menacés, soit directement et à titre personnel, soit indirectement et sur les barnums ou sur les sites de vaccination. Et donc, effectivement, ces situations-là sont à prendre au sérieux parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'un parmi ceux qui peuvent débouler au pied d'un immeuble au hasard d'une adresse et de l'adresse d'un homonyme en l'occurrence faire pire.
C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez tenu très peu de temps après votre arrivée à ce que Didier Raoult fasse un message pour appeler à la vaccination les soignants des Bouches-du-Rhône.
Alors d'une part, le message en question est probablement indirectement, mais le résultat d'une discussion bien antérieure à cet événement du 4 septembre et plutôt d'une discussion début juillet dans lequel on s'était dit, lui et moi, au cours d'un entretien relativement long, qu'il y avait effectivement un enjeu à ce que, quoi que l'on puisse penser de la question de la vaccination, concernant les soignants, il y avait ce qu'on appelle un bénéfice face à un risque qui était indiscutable. Il fallait donc que les soignants se vaccinent. Et donc il y a effectivement eu un tweet du professeur Raoult appelant les soignants à se vacciner dans un contexte où, à l'époque, à Marseille, Marseille, le taux de vaccination à la PHM était autour de 50%. Et donc, on commençait à évoquer à l'époque le fait que la vaccination allait devenir obligatoire. Aurait-elle été obligatoire à la fin du mois de juillet que la moitié des soignants de la PHM n'étaient pas vaccinés? Et puis, encore une fois, la pédagogie, la conviction, le travail notamment des cadres de santé,
ça
des chefs de service.
Ça vous a aidé, ce tweet? L'implication obtenue du professeur Raoult?
Je ne sais pas si le tweet a aidé. En tout cas, le tweet inverse aurait été délétère.
Il y a eu des propos...
Inverse, bien avant.
Inverse.
Oui, il y a eu des propos qui ont été des propos à la fois du scientifique qui était autorisé à douter. Je dis autorisé, le mot n'est même pas très bien choisi. Je comprends que des scientifiques, lui ou d'autres,
aient pu, à différentes étapes,
s'interroger. Ensuite, entre le moment où on s'interroge et la manière de s'exprimer publiquement sur ces questions-là, je crois effectivement qu'une frontière a parfois été franchie, peut-être par lui, par d'autres également, qui a conduit à ce que, ce qu'on appelle à Marseille un peu les discussions de café autour de la question de savoir la vaccination, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il y a des effets secondaires, etc. Je comprends parfaitement que ces discussions puissent avoir lieu dans chacun des cafés marseillais. Il est plus ennuyé lorsque ces discussions peuvent s'appuyer sur un discours scientifique et dont on voit bien que la frontière entre la sincérité ou la rigueur scientifique et la polémique a parfois été franchie.
Un taux de vaccination faible dans les Bouches-du-Rhône, département qui figure aujourd'hui parmi les territoires les plus touchés par la quatrième vague du Covid. Hier, Claire, 29 ans, infirmière à l'hôpital de la Timone de Marseille, témoignait dans Le Monde. Quand on arrive ici, on a l'impression de vivre une réalité dystopique. À l'extérieur, les gens pensent à autre chose, passent à autre chose, alors que nous sommes encore dans la bagarre. Elle est rude, la bagarre, encore aujourd'hui dans les hôpitaux marseillais?
Oui, elle est rude. D'une part, elle a été rude, on l'oublie parfois, mais depuis presque 2 ans maintenant, pas tout à fait, mais bientôt 2 ans, entre le premier cas du premier patient chinois qui a été détecté avec un Covid, c'était à Paris et c'était vers le milieu du mois de janvier, il y a 2 ans et aujourd'hui, il s'est écoulé un temps très long dans les hôpitaux, et je crois que peut-être la réalité dystopique est de ne pas toujours se rendre compte que tout ça a duré. Il y a eu une première vague, on a cru que ce serait la dernière, et puis on est passé à autre chose. Et puis il y a eu une deuxième vague, et on a pensé que l'été allait éteindre le virus. Et puis il y a eu une troisième vague, et effectivement, on sort tout juste aujourd'hui de la quatrième vague. Encore aujourd'hui, on est autour d'une centaine de patients qui sont hospitalisés à la PHM, dont une petite cinquantaine en réanimation. C'est beaucoup, et effectivement, les infirmiers, les infirmières, les médecins sont... dans le Covid, si j'ose dire, depuis maintenant une très longue période.
La vaccination n'est peut-être pas la seule explication. À Marseille, il y a peut-être un problème d'accès aux soins, notamment dans certains quartiers défavorisés.
Alors, la vaccination est d'abord la raison principale, et en réanimation, et on le sait maintenant de manière très objective, très factuelle, très démontrée, les patients qui sont en réanimation sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Le lien avec votre question, c'est que qui sont-ils ces patients qui ne sont pas vaccinés? Ce sont effectivement pour une grande partie des patients qui habitent les quartiers nord, les fameux quartiers nord de Marseille, et qui pour des raisons diverses n'ont pas eu accès à la vaccination, soit qu'ils n'aient pas été informés et qu'ils n'aient pas su que la vaccination était nécessaire, et soit qu'ils en aient été informés mais qu'ils n'aient pas su avoir accès à cette vaccination parce que c'est plus compliqué quand on a moins l'information, quand on sait moins comment le système fonctionne, soit éventuellement qu'ils aient douté et que leur doute accompagnés sur Twitter, sur Facebook,
sur
les réseaux sociaux ou ailleurs, et accompagner ce doute. Ils se sont donc moins vaccinés que d'autres, ou nous les avons moins vaccinés que d'autres. Et effectivement, je pense que l'un des bilans du Covid, c'est cette incroyable inégalité qu'il y a eu face au Covid, dont on a, je crois, insuffisamment parlé, et dont il faudra qu'on fasse le bilan à froid et dans les mois ou les années qui viennent. Tout le monde n'a pas été touché de la même manière par le Covid, et les morts du Covid ne sont pas tout à fait n'importe lesquels des Français.
Pierre.
À partir du 15 octobre, c'est-à-dire vendredi prochain, les tests PCR coûteront 44 euros pour les personnes non vaccinées, et ce, sans ordonnance. On connaît leur prix depuis ce matin. C'est un autre moyen aussi d'inciter les gens à se faire vacciner, un peu comme le prix du tabac.
Je pense effectivement qu'à un moment, il faut qu'on organise cette bascule vers la vaccination. On a aujourd'hui un vaccin qui est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui ne prévient pas contre 100% des cas de Covid, et certains patients, certaines personnes vaccinées peuvent contracter le Covid de manière très rare. Certains d'entre eux ou certaines d'entre elles ont des Covid graves et peuvent se retrouver hospitalisés à l'hôpital. De manière absolument exceptionnelle, quelques patients vaccinés et avec des comorbidités, des patients très immunodéprimés ou autres, peuvent se retrouver en réanimation. Mais le message à retenir, c'est que le vaccin est un outil qui est efficace. Et donc oui, il faut qu'on bascule progressivement vers la vaccination comme outil principal, pas le seul, et on a du liquide hydroalcoolique ici sur la table, l'un des outils principaux à utiliser contre le Covid.
Le gouvernement a aussi annoncé aujourd'hui que pour un allègement du pass sanitaire, il faut encore attendre, il faudra être patient, c'est le cas de le dire. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, disait tout à l'heure qu'il ne serait certainement pas allégé avant le 15 novembre.
ni le pass sanitaire, ni le masque, ni aucune autre mesure qui existe aujourd'hui ne sont éternelles. Nous rentrons dans la période hivernale et nous savons qu'à cette occasion, l'épidémie peut repartir. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre.
Absolument, restez prudent.
Oui, parce que vous avez, ou nous avons tous compris aussi au détour de cette épidémie, que quand l'épidémie reprend, elle reprend extrêmement vite. Et donc on a effectivement un enjeu à garder cette épidémie le plus bas possible. On a tous maintenant compris ce qu'était ce R0, la multiplication par 2, par 3 du nombre de cas. Et effectivement, ni les hôpitaux, ni le système de soins ne peuvent assumer une multiplication comme ça du nombre de cas. Et donc il faut qu'on maintienne cette épidémie le plus bas possible.
On a évoqué tout à l'heure la façon dont vous avez convaincu le professeur Raoult de l'intérêt de publier un message pour encourager les soignants à se faire vacciner. Il n'a pas appelé la population générale de Marseille à se faire vacciner, les soignants seulement. Le professeur Raoult qui n'avait pas manqué de vous souhaiter la bienvenue en ville.
Je pense que très mieux, c'est le grand copain de Hirsch. Et comme j'ai dit ce que je pensais de la gestion de Paris qui était absolument épouvantable. Il est arrivé, il a viré mon collaborateur Éric Chabrière. Ils ont viré Fouquier qui essayait de donner une vision alternative des choses. Et moi, il veut pas me prolonger dans mes fonctions hospitalières. Tout ça en l'espace de 2 mois. C'est peut-être possible que ce soit par hasard, c'est pas sûr. On a l'impression qu'il est venu faire le ménage.
Faire le ménage, c'était quoi? C'était mettre le professeur Raoult à la retraite. C'est le cas officiellement depuis le 31 août dernier, mais il reste toujours président de l'IHU, directeur.
Plusieurs réponses à votre question. Le professeur Raoult est à la retraite depuis le 31 août dernier parce qu'il a eu 70 ans et que dans la carrière des hospitalo-universitaires, donc des professeurs d'université qui travaillent également à l'hôpital, il y a une règle pour laquelle je ne suis strictement pour rien, qui est qu'on est à la retraite le 31 août de l'année universitaire de ses 70 ans. Je crois que c'était anticipé d'assez longue date, pas forcément par moi, mais je pense que le professeur Raoult savait que cette date allait arriver. Ma deuxième remarque, elle est par rapport à l'introduction du professeur Raoult. Qu'on ait des désaccords, je le comprends, qu'on soit en désaccord sur toute une série de sujets, pourquoi pas, mais l'une des choses que je comprends moins bien, c'est que les désaccords ne soient pas traités pour ce qu'ils sont. Que nous argumentions l'un et l'autre sur nos désaccords éventuels, le fait que j'ai travaillé avec Martin Hirsch, qui est de notoriété publique, et que j'ai par ailleurs peut-être plein de très bons copains.
Martin Hirsch, qui est le patron de l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Et peut-être ai-je par ailleurs de très bons copains, très admirateurs de Didier Raoult et fervent partisan de l'hydroxychloroquine. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un des enjeux autour du débat scientifique qu'on a aujourd'hui, c'est d'admettre que ceux avec lesquels on n'est pas d'accord est éventuellement un libre arbitre, indépendamment de savoir s'ils sont parisiens quand ils travaillent à Marseille, s'ils ont été collaborateurs de Martin Hirsch ou pas, s'ils sont administratifs ou scientifiques. Et donc on a effectivement un certain nombre de désaccords. Je pense qu'il y a aujourd'hui un enjeu à organiser la suite de la direction de l'IHU.
Mais c'était un problème que le professeur Raoult ait fait de l'IHU le centre de la validation scientifique du discours anti-vaccin. Ça, je reprends vos propos, c'était un véritable problème.
Oui, je pense effectivement qu'il y a un enjeu, encore une fois, que le professeur Raoult, à titre personnel, ait émis les doutes, les convictions, ses opinions scientifiques. Je le respecte de manière absolue et je ne suis moi-même pas scientifique et je n'ai pas de difficulté avec ça. L'Institut hospitalo-universitaire, par ailleurs, est un centre dans lequel travaillent des centaines de chercheurs, dans lequel il y a d'autres groupes de recherche. Et je pense effectivement qu'il a fini par y avoir une confusion entre les convictions, les positions personnelles de Didier Raoult et l'institution qu'il représentait.
L'Express a publié hier une nouvelle et longue enquête sur les études publiées par l'IHU, la plupart sous la signature de Didier Raoult. C'est la suite d'une précédente enquête du mois de juillet, mais qui montre que des centaines de ces enquêtes apparemment bafoue l'éthique scientifique, 4 au moins ne respectent pas la loi qui encadre les expérimentations sur les êtres humains. La PHM que vous dirigez a commencé à se pencher sur les travaux scientifiques qui sortent de l'IHU ?
Il y a effectivement un certain nombre d'enquêtes ou d'analyses qui sont en cours. D'une part parce qu'une partie des recherches qui sont réalisées par l'IHU le sont par ce que l'on appelle de la promotion assistance publique hôpitaux de Marseille, c'est-à-dire que c'est l'assistance publique qui assume le portage de ces recherches. D'autres de ces recherches sont portées directement par l'Institut hospitalo-universitaire et donc il y a effectivement un certain nombre de vérifications qui sont en cours sur le fait que les recherches menées dans le passé l'aient été conformément à la réglementation et à l'éthique médicale.
Dans le passé et celle aussi plus récente concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine.
Ça veut dire que le professeur Raoult aura éventuellement des comptes à rendre ? sur la façon
si d'aventure les enquêtes
menées
en cours, que ce soit les questions qui nous sont posées, à lui comme à moi d'ailleurs, par l'Agence nationale de l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, et qui a la charge de s'assurer notamment de la conformité de la réglementation sur l'ensemble des essais cliniques en France. Si ces enquêtes montraient que qui que ce soit l'assistance publique hôpitaux de Marseille, ou que ce soit l'IHU, ou que ce soit certains des investigateurs, aient conduit des recherches de manière inadaptée au regard de la réglementation, il y aura effectivement, si ce n'est des comptes, en tout cas des explications à donner.
Merci beaucoup François Crémier. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous.
Vous nous parlez du saccage du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
De l'huile de vidange dans les bureaux, de la colle dans les serrures, des lits détruits. Tout ça se passe à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Les autorités sanitaires de Guadeloupe dénoncent depuis plusieurs jours des actions de sabotage au sein de plusieurs établissements.
Il y a des blocages, des pôles logistiques avec des retards de livraison des repas par exemple, ou dans le cadre de la blanchisserie. Évidemment, ce sont des choses qui troublent énormément le fonctionnement de l'établissement. Il y a certes de la contestation vis-à-vis de l'obligation vaccinale, mais cette contestation prend une forme qui n'est pas une forme acceptable. Mais qui ne prennent pas en otage les patients, qui ne prennent pas en otage les soignants, qui les ont soignés, pour certains, pendant cette quatrième vague.
Dans ce même hôpital, il y a 2 mois, on dénombrait 60 morts en une semaine. Les morgues étaient saturées.
CHU de Pointe-à-Pitre. La mort à grande échelle fait désormais partie du quotidien des soignants. Les corps s'entassent dans les couloirs de la morgue. Le service, lui, déborde.
Aujourd'hui, par exemple, les pompes funèbres ont déjà récupéré 10 corps pour pouvoir faire des enterrements. On en a déjà rentré 10 aujourd'hui.
Ces incidents font bien évidemment courir plus de risques aux patients. Ces sabotages surviennent en plein débat sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans l'archipel. Au CHU de Pointe-à-Pitre, le personnel est majoritairement non vacciné. Pour soutenir les équipes médicales des DOM-TOM, des soignants ont été envoyés depuis la France.
C'est un effort des professionnels de santé qui est absolument considérable, puisque nous sommes maintenant à plus de 900 professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, spécialistes d'anesthésie, de réanimation en maladies infectieuses, qui viennent donc soutenir leurs collègues de médecine de ville, de médecine hospitalière, en Guadeloupe comme en Martinique.
Mais en Guadeloupe comme en Martinique, les soignants ont eu droit à un accueil très particulier. Dans une motion, ce week-end, les médecins de la commission médicale de l'hôpital de Pointe-à-Pitre dénoncent des agressions verbales et physiques. Ils demandent à pouvoir donner des soins dans la sérénité. Des plaintes ont été déposées. En Guadeloupe, le taux de vaccination reste faible, avec 44% d'adultes ayant reçu au moins une dose. En Martinique, seulement 31%. Au CHU de Pointe-à-Pitre, les premières victimes des sabotages sont les victimes, mais aussi les soignants. En mettant de la colle dans les serrures des portes des ressources humaines, la paye du mois d'octobre pourrait être retardée. François Crémieux, quand vous voyez ces images de ces soignants insultés, quel est votre sentiment ?
2 choses. D'abord, l'émotion d'une grande colère. Sauf que j'échangeais ce matin avec Gérard Cotelon, qui est mon collègue directeur du CHU. Donc l'émotion d'une grande colère. Quelle injustice, au-delà de quelle bêtise, pardon d'utiliser ce mot-là, mais quelle injustice à l'égard de ces soignants, des médecins, des infirmières, des brancardiers, de tous ceux qui travaillent à Pointe-à-Pitre. Et puis ma deuxième remarque, un peu plus à distance et peut-être avec un peu moins de colère, c'est, je crois, que l'un des bilans de cette crise doit être notre interrogation sur notre rapport à ces enjeux de santé publique et le fait que peut-être que, à force de délaisser la santé scolaire, par exemple, et la difficulté qu'on a dans les écoles à faire de l'éducation, de la promotion à la santé et à expliquer ce que sont les grands enjeux de santé publique, la santé universitaire qui n'est pas en bien meilleur état que la santé scolaire, la médecine du travail dont on redécouvre à cette occasion-là qu'elle est bien faible quand il s'agit de traiter d'une question comme une maladie infectieuse, nos services municipaux qui ont à la fois en nombre et en compétences des effectifs extrêmement réduits. Je pense que l'un des bilans de cette crise va être de s'interroger peut-être sur l'hôpital l'hôpital, et on pourrait y revenir, mais surtout, surtout ce qui a dysfonctionné en amont de l'hôpital et qui n'est pas le fait d'un dysfonctionnement technique ou opérationnel, qui est le fait d'un relatif abandon depuis des décennies de ces grands enjeux de santé publique. On le savait par rapport, par exemple, à la question de l'obésité. Pardon, la comparaison est lointaine. Et on savait que sur l'obésité, l'enjeu majeur, c'était plutôt de faire de l'éducation et de promouvoir de la nourriture saine plutôt que de traiter par le soin et par l'hôpital les personnes qui étaient en détresse par rapport aux enjeux d'obésité. Pardon, la comparaison est un peu loin, mais je crois que, ou un peu lointaine, mais je crois que cette épidémie nous renvoie ça de manière très forte et que ce sera un des enjeux du bilan de cette crise.
Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Babette. À tout à l'heure. Émilie, vive émotion hier à Frévent, dans le Pas-de-Calais.
Oui, comment une fille de 12 ans peut-elle penser au suicide? C'est la question que tout le monde se posait hier lors de la marche blanche organisée en hommage à Chanel. L'adolescente s'est donnée la mort il y a quelques jours dans son jardin, alors qu'elle venait de rentrer de l'école. Selon sa famille, Chanel aurait été victime de harcèlement.
On lui disait des choses méchantes dues à son poids, qu'il a taquiné beaucoup en sortant de l'école, tout ça.
C'est l'école, je suis désolée. Enfin, l'école et aussi les réseaux. Parce que les réseaux, ça joue beaucoup aussi.
Alors, aucun élément de l'enquête ne permet d'accréditer la thèse du harcèlement pour le moment. Il n'empêche, les réseaux sociaux sont une fois de plus montrés du doigt comme les responsables du mal-être chez les jeunes. Selon des chercheurs, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat provoqueraient même un sentiment de solitude, voire de dépression chez les jeunes. Davantage encore chez les jeunes filles, c'est ce que Audrey Payas et Anaïs Recoulet ont pu vérifier en interrogeant des adolescentes. Et la plupart étant mineures, nous ne pouvons montrer leur visage.
On se dit « Ah, je suis nulle en !»« fait. Ah, elle fait du sport alors que moi, je suis dans mon lit, en train, ou même en train de travailler, ou des choses comme ça. »
On se sent différente, voire un peu inférieure. On a l'impression qu'on doit arriver justement à ce résultat qui est une morphologie parfaite.
Moi, j'ai des connaissances. Bah, du coup, des fois, elles ont le moral à zéro, elles mangent pas ou quoi pour avoir un corps parfait.
Moi, je sais que j'essaie pas mal de me détacher des réseaux sociaux en général. Donc je fais par exemple des pauses une semaine, je vais supprimer Instagram...
Des sentiments attestés par la lanceuse d'alerte de Facebook. Ancienne employée, elle a quitté le réseau social en emportant avec elle des milliers de documents internes, documents que les États-Unis prennent très au sérieux. Auditionnée hier par la commission du Sénat, cette spécialiste des algorithmes, diplômée de Harvard, expliquait comment les algorithmes de Facebook ou d'Instagram peuvent très vite devenir dangereux pour les jeunes utilisateurs et surtout pour les jeunes utilisatrices.
Algorithms are very smart in the sense that they latch on to things that people want to continue to engage with. And unfortunately, in the case of teen girls and things like self-harm, they develop these feedback cycles where children are using Instagram as to self-soothe, but then are exposed to more and more content that makes them hate themselves.
Une spirale infernale qui peut toucher des enfants. Elle parle d'enfants et en effet, à 6 ans, 18% des enfants de 6 ans possèdent déjà un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Ça monte à 41% chez les 8-11 ans.
À quel point la technologie, les algorithmes sont-ils responsables des dérives de notre société actuelle? Font-ils la loi? C'est le titre du livre de la mathématicienne, docteur en sciences, classée comme l'une des 40 Françaises les plus influentes dans le monde par le magazine Forbes. Aurélie Jean est ce soir notre invitée. Bonsoir Aurélie Jean, merci de votre présence ce soir. À la question, les algorithmes font-ils la loi? Je donne tout de suite votre réponse, vous répondez non. Ils ne font pas la loi, mais ils règnent, ils sont partout. Pour nous permettre de trouver l'âme sœur, pour réguler les horaires des trains, nous proposer des vidéos, des publicités en fonction de nos intérêts, mais aussi, on va y revenir, pour prédire les crimes, prévenir le cancer du sein et même aider à créer des vaccins. Mais mal employés, ils deviennent une menace.
Absolument, et c'est ce que vient de démontrer donc Émilie dans son reportage avec Frances Haugen, qui parle, alors elle parle d'algorithmes intelligents, je parlerai d'algorithmes efficaces, parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont juste très efficaces. Et donc oui, en effet, c'est la manière, il y a deux choses, c'est comment les algorithmes sont développés et comment ils sont utilisés. Voilà, et qui sont deux enjeux importants, surtout à l'heure des réseaux sociaux, et comme vous l'avez indiqué, par rapport à ces jeunes, mais à nous aussi.
La principale menace, c'est ce que vous appelez l'effet bulle. Mm-mm. C'est-à-dire?
Alors l'effet bulle, c'est un effet qui a été théorisé par Elie Pariser, qui est en fait l'idée que sur les réseaux sociaux, par exemple, on va statistiquement, algorithmiquement, classer les utilisateurs dans des classes en fonction de la similarité statistique de leur comportement et de leur profil. Ce qu'on va aimer, ce qu'on va partager, ce qu'on va écrire en commentaire les gens qui nous suivent et les gens qu'on suit.
On peut si on facilement suit. Que ça nous mettre dans des classes.
Voilà, donc on met les gens dans des classes, mais j'ai envie de dire, c'est un algorithme classique que moi-même j'utilise dans mon travail. Donc c'est pas un problème. Cela étant dit, lorsqu'on utilise ces algorithmes, on se sert de ça, de ces classes, pour ensuite proposer des contenus ciblés, parce qu'on va proposer des contenus que d'autres gens dans notre classe aiment. Voilà. En théorie, qu'on va aimer en retour. Cela étant dit, si on va trop loin, trop de manière extrême dans ces algorithmes, et comment on va classifier les gens, on va créer donc des bulles, des classes rigides, où les gens ne passent pas d'une classe à l'autre et restent dans leur bulle. Et une bulle, on va créer une bulle d'opinion et d'observation, parce qu'au final, on va ne voir que le contenu que les gens de notre classe voient. Et donc, on va observer le monde de manière biaisée, et on va l'analyser également de manière biaisée, quitte à se... Voilà, à confirmer nos propres biais dans notre classe.
C'est pour ça que vous conseillez de duper un algorithme plutôt que d'avoir peur de lui. Comment est-ce qu'on dupe un algorithme ?
Alors, bien sûr, duper, c'est complémentaire à plein d'autres solutions. Hein. Ce n'est pas la solution. Mais en fait, par exemple, typiquement, moi, j'ai un compte Twitter où je vais suivre des comptes auxquels je n'adhère pas pour essayer de booster les choses et puis de voir un peu ce qu'il va me proposer. Et puis surtout, j'ai aussi plein de manières de travailler pour faire des recherches sur mon moteur de recherche de manière privée, etc., pour ne pas justement, pour minimiser cet effet de biais sur mes propres usages. À peu près, voilà. Mais c'est pas suffisant. Voilà,
mais
c'est ça
le vrai problème, c'est qu'on est tous, vous mis à part, peut-être vous, François Camus, nuls en algorithme. Or, c'est étant si intéressant qu'on pourra le mieux
déjouer.
Déjouer, les maîtriser.
Exactement. Alors, il y a deux choses. Il y a une connaissance citoyenne de tous les utilisateurs, savoir qu'est-ce que c'est déjà, comment il fonctionne, ne serait-ce que connaître l'effet bulle. Qu'est-ce qu'une classification? Qu'est-ce qu'une suggestion algorithmique? Et du coup, de pouvoir mieux défier aussi les propriétaires de ces algorithmes en alertant, en contredisant justement ces propriétaires, etc., etc. Et aussi et surtout, il faut que les dirigeants politiques et économiques comprennent, le législateur comprenne, de façon à pouvoir faire des lois pertinentes, durables,
qui régulent. Mais qui ne brident pas l'innovation.
Non, et c'est ça. Ouais.
Et c'est ça le truc le plus important, parce que les algorithmes, c'est un formidable facteur de progrès. Et notamment, vous travaillez en ce moment, c'est un projet fou, sur un algorithme qui pourrait détecter le cancer du sein 3 ans avant qu'il ne se déclare.
Alors en fait, oui, donc ça c'est un projet de recherche qui est devenu une entreprise qui s'appelle DeepX, qu'on a créé en Israël avec des collaborateurs israéliens. Donc l'idée est la suivante, quand une femme a un cancer du sein et qu'on l'observe donc sur une mammographie, le cancer met 2 à 5 ans à se développer avant qu'on puisse le voir. Donc l'idée du médecin, docteur Benilouche avec qui je travaille, il est venu avec cette idée en me disant, Aurélie, est-ce qu'on ne peut pas détecter le cancer du sein avant qu'on voit la tumeur sur la mammo? Et donc je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. On va réfléchir, on va regarder. Et du coup, voilà, j'ai travaillé sur un algorithme justement de machine learning, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais voilà, appliqué sur un sujet pour résoudre un problème de grande ampleur.
Et ce serait possible d'imaginer cet algorithme qui analyserait quelles données?
Alors ça, je ne peux pas vous dire parce que c'est un peu secret.
Ah, c'est secret.
Voilà, je ne peux pas tout vous dire. Non, ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un algorithme qui va détecter un signal faible qui vient en amont avant un signal fort qui est la détection de la tumeur sur la mammographie. Dans les phénomènes lents, dans la vie, dans la nature, dans la physique...
Il y a toujours un signal.
Voilà, il y a un signal fort et il y a toujours des signaux faibles. Et moi, j'ai travaillé, par exemple, là-dessus quand j'étais à Bloomberg, à New York, où je travaillais sur les signaux faibles de flux de données officielles, économiques et financières pour anticiper un signal fort et pouvoir avoir des informations avant que le phénomène apparaisse. Voilà.
Il y a aussi le rêve d'un monde sans crimes, sans faits divers, sans méchants en fait. Et il y a eu des tentatives de mettre des algorithmes au service de la police et de la justice pour prédire les crimes, éviter des récidives. Ça fait un peu penser au film Minority Report de Steven Spielberg. Sauf que ça, c'était un film. Et sauf que dans la vraie vie, il y a eu un vrai programme PredPol, démarré en 2012, justement pour détecter des crimes. Donc ça aussi, c'est possible.
Oui, alors c'est un très bon exemple dont je parle dans le livre. Et d'ailleurs, je parle beaucoup de Minority Report parce que je trouve que ça fait mal référence à ce qui se passe et de montrer que les choses existent, en fait. Vous avez entièrement raison. Donc Predictive Police, c'est un logiciel qui a été développé initialement par un professeur et son équipe à l'Université de Los Angeles, qui a ensuite été, donc, créé une entreprise et qui a été d'abord vendu à la police de Los Angeles.
Mais comment
Alors comment ça marche? Et c'est pour ça que ça ne marchait pas, en fait, au final. Enfin, ça peut marcher dans 80% des cas, mais les 20% restants où ça ne marche pas, ça peut avoir de graves conséquences. C'est à ça qu'il faut penser. Donc ce qui se passait, c'est que l'algorithme, c'est un algorithme d'apprentissage qui allait apprendre sur les crimes déclarés dans le passé. Il apprenait sur les lieux du crime à Los Angeles et sur le type d'individu, le profil d'individu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des biais, plusieurs choses. D'une part, typiquement, on a fait que donc l'algorithme ensuite suggérait à la police chaque jour des lieux à patrouiller, des gens à approcher. Qu'est-ce qui s'est passé? L'algorithme n'a fait que amplifier des biais présents dans les patrouilles existantes qui fait qu'on va toujours voir les mêmes quartiers. Et il y a aussi, n'oublions pas, le phénomène d'autoréalisation, c'est quand vous allez dans un quartier en pensant qu'il va y avoir un crime, vous allez forcément trouver quelque chose à un moment donné. Donc il va y avoir une confirmation. Deuxièmement, on a vu une stigmatisation des populations hispaniques, afro-américaines, parce que statistiquement, ces populations dans certains quartiers de Los Angeles, en particulier à l'Est, moi j'habite en grande partie à L.A., donc je connais bien, c'est principalement hispanique, afro-américaine, jusqu'à 80% de la population, 70-80, et donc on a stigmatisé ces populations, qui fait qu'on a transformé littéralement une représentativité statistique en une condition systématique, chose qui ne peut pas être faite en fait dans la vie. Et donc voilà, et donc c'est un programme qui s'est arrêté le 21 avril 2020, je crois. Et voilà, et c'est intéressant de... La justice algorithmisée, parce que j'aime bien parler de justice algorithmisée, a un avenir, forcément. Et en France, on utilise des outils aussi. Seulement, il faut faire attention à comment on les utilise, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on les teste. Et c'est surtout cette partie-là qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, la loi n'impose aucun test de ces algorithmes. Et je pense que l'Union européenne travaille en ce moment sur les prochaines régulations sur l'intelligence artificielle, donc sur les algorithmes, et qu'il va falloir justement impliquer les bonnes pratiques de test, de développement, de backtesting, d'usage de ces algorithmes pour assurer
les dérives et les déviances.
Je ne crois pas me tromper en disant que le concept de l'algorithme existait avant votre naissance.
Oui.
Par exemple, la météo
je
utilise...
Je ne suis pas si jeune.
Mais la météo, par exemple, utilise des algorithmes
tout à fait.
De prévision depuis longtemps. Mais il y a une époque où on utilisait presque les algorithmes manuellement.
Oui.
Vous allez voir, par exemple, cette archive de 68 où on utilise un algorithme pour la liste du Père Noël dans un magasin de cadeaux.
Il s'agit donc d'un garçon. Madame, qui a quel âge, s'il vous plaît ?
10 ans.
Qui est calme ou turbulent ?
Turbulent.
Est-ce plutôt un littéraire, un sportif, un jeune artiste, un bricoleur ou un technique ?
Bricoleur.
Bricoleur. Serait-il plutôt émotif, timide, réfléchi, studieux, astucieux ?
Astucieux.
Nous allons maintenant passer au Père Noël électronique. Le Père Noël électronique va conseiller un jeu de construction technique.
La tête du môme avec son jeu de construction technique.
Mais c'est exactement le même.
Exactement. Et pour la petite, pour que les gens comprennent, ce genre d'algorithme, c'est ce qu'on appelle un algorithme explicite parce qu'on définit la logique à la main et on appelle ça un arbre décisionnel. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses auxquelles donc la personne, la maman en l'occurrence, va répondre, on arrive à la fin à un objet. Un jouet pour l'enfant en fonction voilà.
Oui, mais parce que vous faites, vous, c'est beaucoup plus compliqué et sophistiqué quand vous parlez des learning machines.
Oui.
C'est des machines qui apprennent toutes seules,
qui développent elles-mêmes. On va dire, ce sont des j'aime pas dire apprendre ça. Les algorithmes sont entraînés sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels ils vont devoir résoudre un problème ou répondre à une question. Après, dans les algorithmes explicites, ça j'en parlais dans mon premier livre, j'en parle un peu dans le second, il y a aussi des modèles explicites qui ne sont pas des arbres décisionnels, qui sont des gros modèles mathématiques. Et là encore, comme par exemple la météo, ce sont des gros modèles mathématiques de courant marin, c'est de la physique. Voilà, et là, ça devient quand même très complexe.
Les algorithmes font-ils la loi ? Il y a un point d'interrogation. Ouais. C'est le deuxième ouvrage d'Aurélie Jean après le succès de l'autre côté de la machine. Merci d'être venu ce soir. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Merci.
Merci.
Bonsoir, Babette. Bonsoir.
Salut, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. 3500 sages-femmes rassemblées aujourd'hui à Paris. Chiffre officielle.
Oui, elles étaient en grève, à nouveau, manifestaient, à nouveau, elles veulent de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et une reconnaissance comme profession médicale.
La santé des femmes et des enfants sont en danger dans les maternités. C'est ça l'urgence. Il faut que le gouvernement agisse pour augmenter les effectifs de sages-femmes.
Quand on prend la garde, on ne sait jamais ce qui va nous attendre. Les gardes, c'est 12h, 12h30, où parfois on ne s'arrête pas, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, on n'a pas le temps de manger.
On ne peut pas faire le travail de 2 ou 3 personnes, c'est impossible.
Je suis épuisée en fait, j'en peux plus. Enfin, on n'a pas assez de moyens, pas assez de temps pour s'occuper correctement des femmes enceintes, des papas, du couple en général. C'est plus possible en fait, on s'épuise physiquement, mentalement et on n'a pas l'impression de travailler correctement.
L'erreur médicale peut être présente du fait de la suractivité et du manque d'effectifs prêts en garde.
Une sage-femme en début de carrière, c'est 1 600 € net après 5 ans d'études. Pour ce qui est de la reconnaissance médicale, elle reste toutefois responsable juridiquement. Vous l'entendez pour ces manifestantes qu'Audrey Payas et Anaïs Recouli ont interrogées. Il en va de la sécurité des patientes, des nouveau-nés. C'est pour ça que cette jeune maman, qui n'est pas sage-femme elle-même, a tenu à venir les soutenir.
Je suis là surtout parce que ça me touche, ça me tient à cœur. Il y a un an, j'ai accouché grâce à des femmes exceptionnelles. Et du coup, je me sentais légitime de venir pour les soutenir. C'est très compliqué pour elles et on les voit courir partout. Et elles se battent, elles font beaucoup d'heures. Et à côté de ça, elles sont super avec nous, avec les femmes qui accouchent, comme moi par exemple. Et il faudrait qu'elles soient plus reconnues.
Alors forcément, vous allez le voir, c'est plus léger. C'est aussi une manifestation qui nous a offert une collection de jeux de mots sur les pancartes. Vous les lisez à l'écran. Ras-le-col, il n'y a pas que le périnée qui craque. Enquête de reconnaissance. C'est bon, tout le monde là.
Oui.
En arrivant devant le ministère de la Santé, elles se sont assises, hein, Citine, en blouse blanche. Pendant qu'une...
Celle-là.
Véran, tu viens te frotter à nous.
Voilà.
Ouais, c'est votre préféré. Il n'y a pas de problème, je peux toutes les lire. Elles sont très déçues d'ailleurs de ne pas avoir pu voir Olivier Véran. Elles ont été reçues au ministère de la Santé. On leur a répondu qu'elles avaient déjà eu des primes au mois de septembre dernier. Aucune nouvelle annonce en vue. François Crémieux, c'est une profession de vocation, mais qui n'est pas attractive, pas reconnue. Est-ce qu'on fait, oui ou non, courir un risque aux patientes et aux bébés?
Alors, je ne crois pas qu'on fasse courir un risque aux patientes et aux bébés. En revanche, je trouve que la manifestation des sages-femmes aujourd'hui, d'abord, rappelle celle d'il y a 3 ou 5 ans, qui elle-même rappelait celle d'il y a 10 ou 12 ans. Et en fait, on a ces mouvements réguliers de mécontentement des sages-femmes. Et donc, je suis assez navré qu'elles incarnent finalement ce grand écart entre la reconnaissance symbolique qu'on accorde aux soignants et l'espoir, l'espérance qu'on met dans leur exercice au quotidien.
C'est une profession
médicale
pour vous ?
Et l'écart, c'est une profession médicale. Pas pour moi, c'est une profession médicale, point. C'est une profession médicale de par la loi. Les sages-femmes sont une profession médicale, effectivement avec un niveau de reconnaissance, notamment financier, qui est insuffisant et la manifestation aujourd'hui en témoigne. Et donc il y a un enjeu de savoir comment est-ce qu'on réduit cet écart entre les aspirations qu'on met dans nos professionnels soignants et dans leur engagement, et puis la reconnaissance financière qui va avec.
Ce soir, il est donc question de la santé des femmes, puisqu'en parallèle s'ouvre un nouveau débat sur l'interruption volontaire de grossesse.
Oui, l'Assemblée nationale examinera bientôt un texte qui vise à allonger l'IVG. C'est le chef des députés de la majorité qui l'annonce, le délai pour l'IVG, bien sûr, Christophe Castaner, qui estime que c'est une question d'égalité, faute de centres IVG et de praticiens. 12 semaines, ce serait trop court pour certaines femmes, dans certains départements en particulier. Alors, vous le voyez ici, 12 semaines. Sur cette question, nous sommes en dessous de la moyenne européenne, mais c'est 24 semaines au Royaume-Uni, 14 semaines en Espagne, par exemple, 10 semaines au Portugal. Et Christophe Castaner assume de ne pas être sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. C'était l'été dernier, le président affirmait craindre un traumatisme chez les femmes en prolongeant ce délai. Audrey Payas et Anaïs Recouli ont rencontré la gynécologue obstétricienne Rada Hatem. C'est la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. C'est un argument qui ne la convainc pas.
Si votre choix est difficile parce que vous avez envie de le garder, mais que la vie fait que vous ne pouvez pas, ça va être un choix un peu douloureux. Mais vous avez une chance, c'est que vous avez le choix. Et dans plein de pays, on n'a pas le choix. Et je pense que si votre décision est fermement ancrée, ce n'est pas plus douloureux à 12 qu'à 10 qu'à 8. Par contre, si vous mettez des bâtons dans les roues aux femmes, ben ça va être nettement plus douloureux et nettement plus traumatique.
Alors, sur l'interruption volontaire de grossesse, on peut se comparer. On vient de le faire avec nos voisins européens. Toute autre tendance au Texas. On vous a raconté la loi qui interdit d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés à 6 semaines seulement. Eh bien, un mois après son entrée en vigueur, un juge fédéral de l'État a bloqué cette loi. Décision suite à une plainte déposée par le gouvernement de Joe Biden. Cette cour ne permettrait pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus. Avant-hier, la jeune chanteuse Billie Eilish, vous connaissez évidemment, interprète notamment de la bande originale du dernier James Bond, Billie Eilish, en concert à Austin, au Texas. Donc écoutez sa prise de position très claire sur le sujet.
I am so sick and tired of old men. Men in general. Sorry. But old ones, especially. Shut the f*** up about our body! Oh my God!
Alors l'affaire est loin d'être close au Texas. L'État peut encore faire appel de la décision du juge fédéral, mais en attendant, les IVG peuvent reprendre dans les cliniques.
Ce soir, dans le 5 sur 5, les derniers hommages à Bernard Tapie.
Oui, après la messe parisienne hier, aujourd'hui, c'est la ville de Marseille qui accueille le cercueil de son héros. Les hommages d'une ville, d'un stade, hommage populaire. Les portes du Vélodrome n'ouvraient qu'à 17h. Mais depuis ce matin, de nombreux supporters s'y rassemblaient. Le cercueil est désormais exposé au centre de la pelouse. On y diffuse la finale de la Ligue des Champions 93. Déjà, depuis l'annonce de la mort de Bernard Tapie dimanche, les Marseillais pouvaient venir signer un registre de condoléances. Ils se sont confiés à Iban Raïs et Audrey Payas.
C'était qui Bernard Tapie pour l'OM ?
C'était tout, hein. Il a tout gagné, il nous a tout porté, que du bonheur. que du bonheur.
Vous êtes allé écrire un mot, vous avez écrit quoi?
Ben, qui repose en paix, et puis voilà, que des bons souvenirs.
On a marqué comme quoi que bah, qui sincère condoléance à toute la famille et qui repose en paix et qu'on n'oubliera jamais ce qui nous a fait vivre, gagner la Ligue des Champions.
On est venu pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour Marseille. Il nous a rendu notre fierté, il a porté Marseille comme jamais on a porté Marseille dans le monde. Il a tout relevé, c'était quelqu'un de la famille pour tous les Marseillais. C'est un grand monsieur qui vient de partir.
L'hommage doit durer 2 jours. Cortège funèbre demain dans la ville, du Vieux-Port jusqu'à la cathédrale de la Major, où seront célébrées les obsèques de Bernard Tapie.
Il y a quelques minutes, nous avons appris la mort d'Étienne Moujotte.
Oui, journaliste, patron de rédaction, patron de chaîne. De Paris-Normandie à la vice-présidence du groupe TF1, Étienne Moujotte sera passé par Radio France, RTL, Europe 1, dont il a été directeur de l'information. Oui. C'est en 1987 qu'il rejoint le groupe TF1. Il y passera 20 ans. Il y a notamment lancé la première chaîne info de France, la première chaîne info française à LCI. C'était le 24 juin 1994.
Ce sera une chaîne d'information permanente. Ceci veut dire que lorsqu'un événement le justifiera, eh bien, nous prendrons l'antenne et nous la garderons tout le temps nécessaire. Et enfin, ce sera la chaîne du libre débat. 5, 4, 3, 2, 1, top LCI.
Étienne Moujotte avait 81 ans, Pierre.
81 ans et depuis à peu près 30 ans, il luttait contre les récidives d'un cancer de la gorge qu'il avait atteint alors qu'il prenait effectivement les rênes de TF1. Ça a été un très grand patron de rédaction à Europe 1. Après 81, il a été écarté. Et là, une nouvelle aventure est partie. Et ça a été sans doute l'un des hommes qui a réussi à toucher le plus grand public pour la télévision avec des émissions quelquefois controversées, ouais. Mais surtout énormément de créativité. Il avait un sens du public comme j'en ai rarement rencontré.
Une page politique ce soir. Marine Le Pen au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand.
Alors, je n'ai pas prévu de vous parler d'Éric Zemmour. Mais j'y peux rien.
C'est la première fois qu'on prononce ce nom.
Ah oui, je suis désolé, regardez, mais il est là, dans les campagnes, dans les villes, dans les réseaux sociaux, dans les sondages en tout cas, pour tous les autres candidats, enfin pour ceux qui se sont déclarés. On parle désormais de relancer la campagne.
Madame Le Pen, c'est pas vous qui avez besoin d'aide?
Non, ça va bien, merci, vous voyez.
Non, on continue.
Mais je suis là pour sauver le peuple français, j'essaie de sauver au moins le mannequin qui est sous mes mains.
Il faut pas s'arrêter, puis après faire du bouche à bouche.
Ouais, mais là, on s'en va de Covid, on fait pas de bouche à bouche tout de suite. On est d'accord. Ouais. Alors, il est en train de mourir. Non. Si il y a le Covid, on lui fait pas de bouche à bouche.
Bah, justement, on fait du massage et ça continue. Ça permet de maintenir en vie les organes.
Bon, bah, moi, je lui ferai du bouche à bouche.
Louis Amar, on fait pas de bouche à bouche sur les mannequins dans les exercices.
Ah, mais
si quelqu'un a besoin d'un bouche à bouche, je pense qu'on fait un bouche à bouche. Alors Louis Amar et Camille Schmitt ont suivi la candidate du Rassemblement National avec un souvenir en tête, un souvenir de 2017.
Ce qui m'importe, c'est la défense de la France, c'est de porter nos idées. Si un jour, et même si demain, il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour le faire, qui est mieux placé que moi pour rassembler les millions de Français qui sont nécessaires pour opérer le redressement de notre pays et retrouver notre liberté, alors je lui céderai la place, c'est clair.
Alors évidemment, la question lui a été posée.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit en septembre 2017, Madame Le Pen ?
Oui, je m'en souviens très bien.
Vous avez dit
c'était un débat sur qui allait représenter le Rassemblement national dans l'élection présidentielle.
Le camp national. Vous avez dit si quelqu'un un jour est mieux placé que moi, je lui céderai ma place.
Oui,
est-ce que ce jour est arrivé ? Je suis pas Canal+, c'est dommage. C'est à vous, madame.
C'est à vous, madame. Bon, ah oui, dans ces moments-là.
On n'a rien eu.
Non, évidemment, vous pensez bien. Dans ces moments-là, c'est toujours mieux d'être entouré des siens. Alors, dans la famille Le Pen, vous savez que ça peut être un peu compliqué. La nièce et le père qui ont un œil sur le RN, un autre sur Zemmour. Marie-Caroline, la grande sœur de Marine Le Pen, tente de mettre tout le monde d'accord.
On dit souvent qu'Éric Zemmour est plus proche de Jean-Marie Le Pen que ne l'est Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas. Je pense qu'avec Zemmour, nous avons des points de divergence. Bon, il fait de la radicalité. Donc je pense qu'effectivement, il fait, c'est vrai, ce que faisait Jean-Marie Le Pen dans les années 80. La seule différence, c'est que dans les années 80, il fallait appuyer le trait parce qu'il fallait alerter les gens sur le danger de l'immigration, ce qui maintenant n'est plus le cas, puisque je pense que tout le monde a pris conscience.
Alors finalement, Marine Le Pen a fini par assumer à Clermont-Ferrand et par lancer un appel à Éric Zemmour.
Je raconte ma vie, ça vous paraît un peu bizarre.
Écoute, Éric, maintenant, il faut que tu sois candidat. C'est une question aussi un peu de loyauté vis-à-vis des Français, un peu d'honnêteté politique. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de proposition précise de la part d'Éric.
Donc, il faudrait que Éric Zemmour soit candidat pour qu'éventuellement un dialogue possible s'installe. Une thématique statue à présent, Mathieu.
Oui, je vais commencer en Italie, près de Naples, avec une statue polémique, la glaneuse de Sapri, une ouvrière agricole dans un poème du 19e siècle à qui l'on a voulu rendre hommage. Voilà la sculpture qui a provoqué un tollé. On juge ses courbes trop avantageuses, on la trouve trop sexualisée, des formes provocantes. Malgré la polémique, elle ne devrait pas être déboulonnée. Autre statue, autre pays, enfin chez nous, en France, en Guadeloupe précisément, la mulâtresse Solitude, bien connue aux Antilles, c'est une héroïne de la résistance des anciens esclaves. C'est ce qui sera écrit, en fait, dans le 17e arrondissement de Paris. Une nouvelle version est prévue. Ce sera la première femme noire à avoir une statue dans la capitale. Et puis enfin, Bilbao, en Espagne, avec cette œuvre étrange. Une jeune fille qui se noie au gré des marées de la ville. On va la voir, 120 kilos de fibres de verre installées du jour au lendemain sans prévenir. Alors forcément, les habitants ont été surpris.
Avant de savoir le significat, je pensais que c'était parce que quelque chose a passé ici. Relacionado con, creo que sé, tiempo atrás y así, con alguna chica que ha marcado y pensaba eso, pues que tenía algo que ver con una niña.
No tiene ni siquiera ella una cara de agobio, ¿sabes? La veo un poco como que se está dejándose ahogar, es como si estuviese a punto de ahogarse, pero no sé, un suicidio o algo así, no sé, es esa sensación.
Alors je ne vous laisse pas sans la réponse, c'est une image des conséquences du réchauffement climatique, de la montée des eaux, ça y est, je crois que même à Bilbao, tout le monde a compris.
Mais moi aussi, tiens, je vais parler de statues, celle d'un chat qui doit avoir le melon. Pas facile de rester humble quand 20 statues géantes sculptées à son effigie font un tour de France triomphal, l'événement culturel le plus visité en 2021. 5 millions de visiteurs à Paris sur les Champs-Élysées et à Bordeaux pour cette expo monumentale qui s'installe maintenant à Caen. Il n'y a jamais que quelques chiens jaloux et mal élevés pour gâcher la fête.
Il ne faudrait tout de même pas que le chat prenne la grosse tête.
Il y a un chien qui est venu lever la patte sur le socle du chat. Je voudrais m'adresser à tous les chiens de Bordeaux et leur dire de respecter un confrère, malgré tout, s'il vous plaît. Merci.
Philippe Geluc, maître du chat en question et dresseur de chiens à l'occasion, est ce soir notre invité. Ouais.
Bonsoir
Philippe, bienvenue sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de cette exposition ambulante et du catalogue d'expo qui l'accompagne. Les statues sont en ce moment à Caen. Est-ce que les chiens de Caen se tiennent mieux que les chiens de Bordeaux ?
Beaucoup mieux.
Ah.
Oui, parce qu'à Bordeaux, ils boivent évidemment du vin de la région. D'accord. Et donc ils se conduisent mal.
À Caen, ils sont sobres. Ils sont sobres. En même temps, ils ne font que reproduire ces chiens, ce que vous avez imaginé dans une des sculptures, pipi et gros bidet. Le chat tient un cerceau devant lui, un chien fait pipi à travers le cerceau dans un seau, avec un vrai jet d'eau qui sort du zizi du chat. Hommage au mannequin Peace, sauf que ce n'est pas du vrai pipi.
Oui, je l'ai précisé à des enfants qui se posaient vraiment la question. Je dis, vous pouvez avec le doigt vérifier, c'est de l'eau qu'on ne peut pas boire, bien sûr, mais qui n'est pas dangereuse pour ceux qui le feraient.
Mathieu.
Oui, un dernier dossier qui doit vous captiver, Philippe Geluc, évidemment. Beaucoup parlent de revanche de la demi-finale de 2018, un match Belgique-France ce soir, la France arrogante contre des Belges mauvais perdants. Vous avez peut-être vu la une de l'équipe ce matin, ça va se friter, disent les journalistes de l'équipe. J'ai pas mieux comme jeu de mots, mais je voulais tenter autre chose. J'ai besoin de l'aide de Victor qui va venir avec nous. Alors Babette, tenez ça. Hop, ça sera la France. Philippe Geluc, ça, ce sera la Belgique, bien sûr. Et je vous présente le chat, évidemment. Oh. Il s'appelle Sen.
Il faut qu'il choisisse les croquettes.
Il faut qu'il choisisse les croquettes pour avoir le pronostic du match de ce soir.
Attends, on ne peut pas rendre l'antenne tant que le chat n'a pas...
Attendez, il est...
Oui. Sen, viens mon Milou, viens là.
Il allait sur la France.
Je ne peux évidemment pas prendre parti ce soir sur ce plateau.
Ok. Mais... Allez, les Bleus, vive la France. Merci Aurélie Jean, merci François Camieux. Viens mon petit Sen. A tout de suite Philippe Geluc. Et je mange pas les croquettes.
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne et restez avec nous. C'est à vous, Sen aura peut-être choisi. A tout de suite. Sen, il a deux secondes, on peut le garder là pour jouer.